Vous écoutez France Culture.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Depuis quelques années, la science économique s'empare d'objets de recherche qui jusque-là appartenaient plutôt aux sociologues, comme l'école, le vote, certaines manières de regarder le travail ou de penser les inégalités. À l'occasion de la publication d'un ouvrage collectif qui, mieux que n'importe quel autre, prend la mesure de cette évolution en quelque sorte, Philippe Askenazy, qui est l'un des co-directeurs avec Daniel Cohen de ce volume, est l'invité de la suite dans les idées. Mais avant, remarque d'actualité d'entre deux tours, selon des sondages d'intention de vote qu'il convient bien sûr de prendre avec des pincettes, même s'ils sont nettement moins artefactuels que les enquêtes d'opinion, selon ces sondages, donc, l'abstention sera au soir du second tour de ces élections régionales encore plus élevée qu'au soir du premier où elle s'était déjà située à un niveau considérable, battant un nouveau record en la matière. Le quatrième record consécutif par type d'élection, après les législatives de 2007, les municipales en 2008, les européennes en 2009. À chaque fois, dans chacune de ces catégories d'élections, l'abstention a atteint un record historique absolu. Alors plutôt que de tenter de politiser à outrance ce comportement ou ce non-comportement électoral, comme ont systématiquement tendance à le faire les acteurs et les commentateurs politiques, oubliant que pour la très grande majorité des gens, le rapport à la politique n'est pas principalement politique, au sens où ces acteurs et ces commentateurs l'entendent, plutôt donc que de tenter de débusquer un bien illusoire message politique des abstentionnistes, il convient de se tourner vers les chercheurs qui travaillent sur la politisation et sur l'abstention, pour insister sur les déterminants sociaux de ce non-vote, une non-pratique étroitement corrélée à l'âge, au niveau de diplôme, au niveau de revenus, des variables qui pèsent plus lourd que celles qui relèvent de l'offre politique. Par contraste, il faudrait aussi s'interroger sur l'incroyable participation à l'élection présidentielle de 2007 qui est parvenue à radicalement inverser la tendance de long terme à la démobilisation électorale. Preuve sans doute qu'un travail politique intense produit des effets, preuve surtout que l'élection présidentielle, du fait de sa personnalisation, parvient à dépasser la politique ou à la réduire à une dimension simpliste, humaine, plus compatible avec un électorat plus large. Preuve plus encore que cette élection est parvenue à tout dévorer, elle résume désormais la politique au point que dimanche dernier, comme ils le feront dimanche prochain, les plateaux de télévision ont offert l'étrange spectacle d'une soirée électorale d'où étaient à peu près absents les vainqueurs, les présidents de région, à l'exception de Georges Frêche et de Ségolène Royal. Tout le monde, acteurs et commentateurs politiques, ayant les yeux rivés par-delà les régions sur leur obsession 2012. Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes le directeur adjoint d'un laboratoire qui s'appelle le CEPREMAP, dont Daniel Cohen est le directeur. Daniel Cohen qui co-dirige avec vous un volume économique 2 qui paraît aux éditions Albin Michel, où avait déjà paru économique 1, qui était des nouvelles questions d'économie contemporaine. Cette fois-ci, il y en a 16. La dernière fois, il y en avait un peu plus.
27, oui.
Ce qui ne veut pas dire que le volume est tellement moins épais. C'est un gros volume dans lequel vous réunissez, en ayant demandé aux différents auteurs, parce que c'est un livre très collectif, de retravailler, vous réunissez des textes qui ont paru dans la petite collection que votre laboratoire, le CEPREMAP, publie. Et donc, au fond, le premier volume, c'était il y a 2 ans. Donc, tous les 2 ans, vous allez nous offrir une sorte de panorama, non pas de l'ensemble de la science économique française, mais disons d'un certain nombre de chercheurs, et sans véritablement, j'imagine, un programme de recherche impulsé depuis le haut. C'est-à-dire que ça renvoie aussi une image qui est celle de, du fait d'accoler, je dirais, les envies, les désirs de recherche d'un certain nombre d'économistes, Philippe Askenazy.
Oui, tout à fait. C'est la science économique est une science extrêmement vivante. Les faits eux-mêmes obligent les économistes à repenser leur paradigme en permanence, que ça soit la crise ou de manière plus structurelle les évolutions de la société. Et donc, en permanence, les économistes réfléchissent à des questions nouvelles, revoient leur problématique. Et l'objectif donc du CEPREMAP est de rassembler des auteurs. Donc effectivement, une partie a déjà été publiée. Il y a aussi des chapitres nouveaux au sein de cet ouvrage, et de faire exprimer la diversité des recherches en économie en France, mais aussi à l'étranger. Donc il y a cette volonté tous les deux ans, effectivement, de faire un point sur des recherches appliquées. Il y a des recherches très théoriques, mais qu'on ne traite pas ici. Et donc là, on se préoccupe de questions qui sont centrales dans les débats publics actuels. Et donc dans l'ouvrage, on a choisi trois thématiques qui sont celles de la société française, de son fonctionnement et des facteurs potentiellement de défiance, de mal-être des Français. Une seconde thématique sur l'avenir de l'État-providence, que ce soit les questions de santé ou les questions de retraite. Et évidemment, la crise financière. Pendant deux ans, nous aborderons d'autres questions, comme très certainement l'économie verte. Mais là, donc, pour le moment, donc, c'est trois questions lourdes à travers donc les contributions d'une vingtaine d'auteurs.
Comme je disais en ouvrant cette émission, on a le sentiment que la science économique s'est emparée ces dernières années d'objets sur lesquels les sociologues travaillaient depuis longtemps, mais en proposant des regards différents. On sait bien la façon dont Thomas Piketty sur la taille des classes, ou dont Éric Morin, par exemple, pour prendre le même terrain, ont travaillé l'un et l'autre sur l'école, venant non pas forcément bousculer les sociologues, mais créant un débat avec eux, et d'ailleurs débat qui continue d'avoir lieu, ce qui est une bonne chose pour qui conçoit les sciences sociales comme un tout, comme un ensemble qui devrait peut-être un peu plus être en interconnexion. Alors là, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que sur cet ouvrage, c'est très frappant, vous avez donné les trois grandes parties. Moi, je vous propose qu'on laisse peut-être un peu de côté dans l'émission d'aujourd'hui la crise financière, non pas que ce soit pas important, et il y a des réflexions passionnantes, il y a un chapitre d'André Orléans, il y a beaucoup de choses passionnantes sur la crise financière dans le livre, mais on n'aura pas le temps de tout aborder, et je dirais saisissons-nous ici à la suite dans les idées des questions qui sont plus reliées aux problématiques habituelles de la sociologie, de l'anthropologie ou de la science politique, et réfléchissons aux deux autres parties, celles qui concernent donc ce modèle français, ce mal-être français, et autour en particulier de ce concept de défiance, de société de défiance qu'ont proposé Algan et Cahuc, et puis ce qui relève aussi de la crise de l'État-providence et ce qui tourne autour de deux dossiers en particulier, la question des retraites et celle de la santé, peut-être sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un instant aujourd'hui, Philippe Askenazy. Alors, commençons par ce modèle français, ce concept, parce que de défiance, on sait que Yann Algan et Pierre Cahuc ont écrit un ouvrage dans lequel ils proposent cette idée, peut-être vous pouvez nous la résumer, qu'on serait dans une société en France un peu différente des autres sociétés démocratiques occidentales, pour le dire vite, parce qu'elle serait caractérisée par une assez grande défiance, un manque de confiance des habitants de ce pays à l'endroit des institutions, on peut le dire comme ça.
Oui, même au-delà des institutions. Disons, ce qu'ont remarqué Pierre Cahuc et Yann Algan, c'est le résultat en fait d'un vaste mouvement des chercheurs au niveau international qui ont construit donc des enquêtes avec les mêmes questions dans un très grand nombre de pays pour arriver à comprendre des fondamentaux des différentes sociétés. Et donc ils ont exploité ces informations pour aboutir effectivement à un constat assez surprenant au premier regard, que la France serait un pays où on a à la fois une défiance violence déclarée par les individus vis-à-vis des institutions, mais aussi vis-à-vis de leurs concitoyens. C'est-à-dire que, notamment, si on prend la variable, est-ce que vous avez confiance en autrui, donc quelque chose de véritablement interindividuel, la France se classe extrêmement bas, même plus bas que des pays comme l'Irak, par exemple. Donc ça, ils l'ont pas mis véritablement dans leur présentation, mais c'est très très surprenant de voir que il y a des fractures au sein de la société française.
Problème de culture politique, de culture civique.
À la fois de culture civique, mais même c'est vraiment de culture citoyenne d'une certaine manière et de capacité à vivre ensemble qui ressort à travers ces chiffres et ce qui monte à travers de nombreux graphiques, mais qui se lèvent de manière assez facile, c'est qu'on obtient des corrélations entre cet élément de défiance et un certain nombre de variables économiques et d'autres éléments de comportement, comme celui de la défiance vis-à-vis des syndicats. Donc lorsque vous avez une défiance en autrui, vous avez aussi une défiance vis-à-vis des organisations syndicales. Et donc ça a des conséquences économiques sur les modes de négociation au sein des entreprises et donc de fait aussi des modes d'intervention de l'État. Et il voit à travers cela un élément de rigidité de la société française qui se traduit aussi par rigidité des institutions et donc par un poids sur le fonctionnement de l'économie. Et d'une certaine manière, la seconde partie de leur démonstration, c'est d'essayer de mettre en évidence que si les pays faisaient un effort pour se rapprocher un petit peu du pays modèle qui est la Suède en termes de confiance globale de la société, il y aurait des gains économiques tout à fait significatifs. Donc c'est leur vision qui a été discutée par une partie des historiens, des politistes.
Ils donc, y répondent d'ailleurs dans le...
Alors eux-mêmes y répondent à un certain nombre de critiques, puisque effectivement, le gros de la nouveauté qui est utilisé des grosses bases de données avec des outils statistiques, et peut-être avec moins, je dirais, de liants sociologiques politiste. Donc une volonté de faire ressortir des angles à travers les données, c'est quelque chose qui peut choquer par ailleurs, mais qui nourrit le débat. Donc il faut le voir avant tout.
Il y a quelque chose d'assez brutal dans l'analyse.
Il y a quelque chose de brutal, mais qui provoque, mais qui a certainement un fondement, et c'est ce fondement qu'il faut comprendre, et donc d'autres textes qu'il y a au sein de cet ouvrage cherchent à compléter avec donc d'autres regards et avec peut-être des éléments de parfois de contradiction avec ce qu'ont pu donner Yann Algan et Pierre Cahuc, mais qui enrichissent le débat, et c'est certainement quelque chose qui permettra globalement à la science, aux sciences humaines et sociales d'avancer et aussi de trouver des solutions politiques. C'est quelque chose qui peut intéresser tout autant la droite que la gauche, les régions comme le gouvernement au niveau national.
Ce que je trouve intéressant dans cette analyse, c'est qu'elle permet peut-être de saisir ce que parfois on caractérise comme une crise de l'autorité en France en sautant une étape, en se rendant pas compte à quel point il y a d'abord peut-être et avant tout une crise de la légitimation politique, et d'où ces crispations et cette rigidité institutionnelle dont vous parliez. On peut parler de l'école, qui est peut-être l'exemple le plus symptomatique de ça. Mais il y a néanmoins peut-être un souci avec ce concept, au-delà de ce qu'il décrit, de défiance, parce qu'il y a un chapitre sur l'abstention. J'en parlais au début de l'émission. Est-ce qu'on peut véritablement parler de défiance quand des sociologues précisément nous décrivent plutôt une apathie qu'une défiance, c'est-à-dire une indifférence beaucoup plus qu'une défiance, une non-participation? Alors peut-être faut s'entendre sur le mot de défiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une dimension rebelle, je dirais, au fait de ne pas prendre part au vote, ou plutôt cette dimension rebelle de ne pas prendre part au vote, on sait qu'elle est infime. Elle concerne une minorité d'abstentionnistes, quand on sait que la vaste majorité est juste à côté, au fond, Philippe Askenazy.
Oui, alors là, il n'y a pas, disons, de réponse absolue à cette question-là. Si on regarde d'autres types d'élections, comme par exemple les élections prud'homales, on est très surpris par des niveaux tout à fait élevés de participation, alors même qu'il y a une très forte défiance vis-à-vis des syndicats. Donc je pense qu'il y a un attachement quand même des Français au processus démocratique. L'immense majorité des Français ne verraient pas d'autres types de systèmes et veulent qu'il y ait une démocratie à tous les niveaux. Mais à partir de là, c'est plutôt l'offre politique qu'il y a en face d'eux qui va être un élément déterminant de leur niveau de participation. Donc à partir d'une certaine défiance vis-à-vis des institutions, si on leur rajoute en outre une offre politique qui est insatisfaisante, ça se traduit par une très forte abstention. Et lorsqu'on regarde dans les prud'hommes, les personnes participent parce qu'avant tout, elles savent qu'elles vont élire des syndicalistes qui vont potentiellement les défendre individuellement face à leur employeur. Donc là, il y a une offre très claire de défense et donc les personnes participent. Et par ailleurs, on voit qu'il y a un biais. Ils votent principalement pour, enfin plus que pour d'autres élections professionnelles, pour la CGT parce qu'ils ont le sentiment que la CGT les défendra plus fortement. Donc là, on voit que très clairement, offre, participation malgré une situation de défiance. En revanche, dans le domaine politique, et c'est là où en quelque sorte il faut marier les différents chapitres. D'un côté, donc Yann Algan, Pierre Cahuc, la défiance. De notre côté, une analyse d'une globale abstention à travers Karine van der Straeten. Et puis donc Bruno Amable qui lui essaye de comprendre au niveau cette fois-ci européen, l'offre politique et ce qu'il met en évidence, qu'on sent en France, mais qu'on retrouve en fait au niveau global européen. C'est une situation où les frontières politiques deviennent de plus en plus floues, que d'un modèle où on cherchait à attraper l'électeur en quelque sorte médian, qui était une personne des classes moyennes, où on pouvait jouer sur un facteur protection versus réduction d'impôts, par exemple, sur un partage droite-gauche très simple. Il montre que partout, cette notion de l'électeur médian s'est effritée parce que ce sont plutôt sur les extrêmes que se jouent des vagues
que les politistes appellent l'intermittence.
Voilà, une intermittence qui se joue donc finalement sur des populations plutôt, au contraire, défavorisées, qui peuvent passer d'un extrême à l'autre, ou bien voter à gauche, à droite, sur des partis de gouvernement. Et là, on a donc une difficulté pour définir des offres politiques, et ça se rencontre sur l'ensemble de l'Europe, et donc finalement une situation de mollesse dans les programmes politiques. Et donc, à nouveau, si on marie défiance plus une situation où il n'y a pas véritablement de clarté, eh bien, ça se traduit par un retrait des électeurs et une situation donc de forte abstention.
Le point de départ de cette réflexion de Bruno Amable, comme vous le rappelez, c'est au fond consiste à dire que la volatilité électorale n'est pas, comme on a pu les laisser entendre longtemps, générée par un électeur rationnel qui ferait son shopping politique et qui se situerait plutôt dans les classes moyennes élevées, au centre de l'échiquier politique et qui basculerait d'une élection à l'autre, mais plutôt du côté de gens qui ont un rapport un peu distendu à la politique et pour lesquels ce qu'on appelait autrefois l'identification partisane s'est considérablement affaibli et donc provoque cette intermittence à la fois dans la participation ou non participation, mais aussi dans le vote pour la droite d'un côté ou la gauche de l'autre. Alors ce qu'en tire Bruno Amable, ce que j'ai trouvé très intéressant dans son papier, c'est la façon dont peut ou doit se recomposer l'offre politique et à travers des compromis sociaux et politiques d'une autre nature qui viennent au fond réinventer la politique et peut-être que le modèle social-démocrate est plus tout à fait adapté si on lit bien Bruno Amable.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour lui, la crise finalement des systèmes politiques s'étend même à ce que l'on prend comme modèle les pays scandinaves. C'est-à-dire que là aussi, il peut y avoir de manière sous-jacente des malaises qui se créent. D'une certaine manière, le fait que dans un pays comme la Suède, on a eu un gouvernement social-démocrate, on est parti, ils ont récemment changé de majorité vers un gouvernement qui est nettement plus libéral. Même dans ces pays-là, eh bien, il y a une hésitation sur la construction de l'offre politique. Et on voit bien en France que ces hésitations sont massives. On n'a pas du tout, lors de ces régionales, le même portrait politique que celui que l'on pouvait avoir lors de la présidentielle. Donc en 2 ans, une recomposition extrêmement rapide. Et à nouveau, donc, ce que montre finalement Bruno Amable, c'est que c'est un problème global européen, pas une particularité française pour le coup. Donc vous voyez, d'un côté, on a des particularismes, des dysfonctionnements certains au niveau de notre société, au niveau de nos institutions, et d'un autre côté, une sorte d'Europe politique qui est plongée globalement dans des interrogations, des recompositions. Et cette réflexion finalement que l'on a en France, elle est aussi très très forte en Italie, elle est très forte également en Allemagne. Et on verra après les élections britanniques ce qu'il en sera également en Grande-Bretagne, où on risque même en Grande-Bretagne de se retrouver dans une situation où il n'y aurait pas de majorité, dans un pays où pourtant on a un scrutin uninominal à un tour majoritaire. On risque d'avoir un pays sans majorité, et donc on voit partout ces hésitations. Effectivement, on s'interroge partout sur quel est le modèle, et ce modèle aussi renvoie au fait que nos sociétés vivent des chocs, qui sont des chocs démographiques notamment, qui interrogent globalement la soutenabilité de nos économies.
Philippe Askenazy, je voudrais qu'on revienne un instant sur cette caractéristique du modèle français qui serait frappé d'une défiance plus grande et dans lequel le lien social, la réciprocité entre les individus serait plus faible, mais qu'on s'y arrête cette fois du point de vue du monde du travail que vous connaissez bien, sur lequel vous, comme économiste, comme chercheur, vous travaillez depuis longtemps. Il y a un chapitre consacré à ça par Andrew Clark dans ce volume. Comment ça se traduit dans les relations de travail, cette spécificité française?
Alors, ce que montre Andrew Clark est vraiment donc passionnant. Alors lui, donc c'est un Britannique, hein, mais qui est un chercheur en France, et un des plus grands spécialistes mondiaux des questions de bonheur et de comportement, enfin d'économie psychologique des individus. Et donc lui, ce qu'il avance, c'est que effectivement, c'est le problème en quelque sorte de réciprocité se traduit dans les relations de travail par des difficultés pour que le travailleur s'investisse auprès de son entreprise. C'est-à-dire que il y a le sentiment que l'entreprise ne rémunère pas, par exemple, à la juste valeur le travail et aux justes efforts des salariés. Et donc, le salarié lui-même ne se sent pas comptable vis-à-vis de l'entreprise et, de fait, n'a pas un investissement, une loyauté vis-à-vis de son entreprise aussi poussée que ce que l'on pourrait rencontrer dans d'autres pays. Alors là, si vous voulez, si on reste sur l'analyse confiance-défiance, on pourrait se dire que finalement, c'est globalement le fonctionnement de la société qui est interrogé. Mais là, dans les analyses d'Andrew Clark, mais aussi de Claudia Seni, qui se pose des questions sur est-ce que les Français sont malheureux ou pas, on a quand même une interrogation sur qu'est-ce qui peut être le facteur déclenchant à la base de cela. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une très forte connexion entre cette absence de réciprocité, donc qui peut se traduire par une absence d'efficacité de l'économie française, et donc par une situation où finalement on a plus de chômage parce qu'on est moins efficace. Mais on peut tout à fait renverser le raisonnement. C'est-à-dire que finalement, peut-être c'est une sorte de contrat implicite social au sein de l'entreprise qui est rompu à travers une très forte flexibilité du travail, une insécurité professionnelle, un taux de chômage qui est... Ça, c'est aussi quand même une particularité économique de la France. On n'est jamais, à aucun moment depuis maintenant 40 ans, 35 ans, sorti d'une situation de chômage de masse. Donc, on peut renverser le raisonnement en disant que finalement, c'est parce qu'on a été incapable de résoudre ce problème économique que, sur le long terme, le contrat social s'est rompu et on est dans une situation où, effectivement, on n'a pas confiance dans son entreprise, on est en rupture vis-à-vis des employeurs au sens large, et donc dans une sorte de situation vicieuse. Et donc toutes les clés, et là, si vous voulez, l'ouvrage essaye, chaque auteur essaye d'apporter un certain nombre de pistes, mais on n'a pas encore véritablement la clé pour arriver à sortir de ce cercle en quelque sorte vicieux de confiance rompue, et donc de ce qui tourne vers la défiance, et à tous les niveaux, de l'entreprise interpersonnelle jusqu'aux institutions.
Alors, ce qui frappe quand on essaye de faire le lien, malgré tout, entre les trois parties du livre, c'est à quel point, au fond, en dépit de cette caractéristique du modèle français de défiance, la population dans ce pays est encore attachée à un certain nombre de protections et qui relèvent de ce qu'on appelle l'État-providence et qui ont été malmenées depuis une vingtaine d'années, démantelées, diront certains, aménagées, assouplies, etc. Donc, on a l'impression, et c'est là qu'il y a un lien avec la première partie partie aussi qu'à la faveur de la crise financière, une sorte de demande ou de besoin de protection se fait sentir. C'est bien ce que, il semble, la gauche a entendu. On a vu l'inflexion du discours, notamment de Martine Aubry sur ces questions, en expliquant que les régions étaient là pour apporter des protections que l'État n'assurerait plus aujourd'hui. Alors il y a deux questions qui sont traité en priorité, j'allais dire, dans cette troisième partie sur laquelle j'aimerais qu'on vienne, on a peu de temps, mais c'est celle des retraites, mais peut-être plus encore celle de la santé, Philippe Askenazy, qui permet de peut-être d'opérer une sorte de changement, de, si ce n'est de paradigme, en tout cas de point de vue sur l'État-providence.
Oui, alors le cas de la santé, donc c'est en fait deux chapitres de Brigitte Dormont qui revisite la question des dépenses de santé et du poids de la santé, du rôle de la santé dans l'économie, notamment dans une économie comme celle de la France. Et on veut faire le lien d'une certaine manière. On a construit tout un discours politique depuis maintenant 15-20 ans que la sécurité sociale, c'était un coût, qu'il fallait faire des gains de productivité, réduire nos dépenses. On a construit depuis quelques années des politiques de franchise. Derrière cela, finalement, aussi les politiques ont joué contre cette institution, en disant que c'était plutôt un élément qui jouait contre l'économie et qu'il fallait essayer de rendre plus performante, et c'était le seul objectif. Alors ce que Brigitte Dormont met en évidence, c'est que premièrement, les dépenses de santé, elles augmentent de manière significative, mais en fait dans tous les pays, et à travers un canal particulier qui n'est pas celui du vieillissement, au contraire de l'opinion largement répandue, qui n'est pas celui non plus de l'inefficience, mais qui est principalement celui du progrès technologique, c'est-à-dire qu'il y a des progrès massifs dans les technologies médicales, et ces progrès massifs ont un coût, loin d'être négligeable, effectivement, qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Et si on ne veut pas rompre ce progrès, eh bien, d'une certaine façon, il faut que la société accepte une augmentation de ses dépenses. Et ce que montre Brigitte Dormont, et c'est totalement spectaculaire, c'est que finalement, ces dépenses, puisqu'elles sont liées à un progrès, eh bien, elles se traduisent aussi par des gains d'espérance de vie que l'on constate tous les ans. En gros, on gagne un trimestre tous les ans, ce qui est quelque chose d'énorme. Vous voyez, en 10 ans, on gagne 3 ans d'espérance de vie. Eh bien, une année d'espérance de vie, lorsqu'on essaye économiquement de la mesurer, déjà, les individus eux-mêmes sont capables de donner une valeur. Et cette valeur, aux États-Unis, ça a été mesuré, c'est de l'ordre de 100 000 dollars, donc en gros 80 000 euros. Donc c'est une somme tout à fait appréciable. C'est aussi une capacité pour les personnes de rester plus longtemps dans leur carrière professionnelle, donc de produire plus. Et donc lorsqu'on fait cette somme au total, sur un pays comme les États-Unis, eh bien, ça coûte 15% par an de PIB, ces dépenses de santé, mais ça rapporterait 30% de PIB. Donc finalement, ce que dit Brigitte Dormont, c'est qu'il faut repositionner la vision des dépenses de santé, se dire qu'au contraire, c'est potentiellement quelque chose qui apporte beaucoup à une économie comme la France. Donc vous voyez, à travers ce renversement de paradigme, c'est aussi une manière de revoir autrement les institutions et peut-être d'être un élément de reconstruction du discours politique et de reconstruction d'une confiance des Français dans leurs institutions.
Espérons que ces responsables politiques prennent le temps de lire ce gros volume, 16 nouvelles questions d'économie contemporaine. Économique 2, c'est sous la direction de Daniel Cohen et de vous, Philippe Askenazy. Merci d'avoir été l'invité de la suite dans les idées. Juste très rapidement, signaler la parution du numéro 1 du volume 60 de la vénérable revue française de sciences politiques, avec une nouvelle maquette pour l'occasion un peu vintage qui fait très très années 60, sous la direction désormais d'Yves Deloye, avec un dossier sur la politisation, précisément un beau papier d'Olivier Hill sur les violences électorales du scrutin d'avril 48, mais aussi un article sur une approche pragmatiste de la compétence civique de Julien Talpin, un article très très intéressant qui nous renvoie à ces questions de la participation électorale. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Anne-Catherine Lochard à la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani à la réalisation, Jean-Christophe Francis. à 12h30, le journal sur France Culture.